Les Canuts, deuxième partie, chapitre 8. Pellegrin avait quitté la maison Jacquemin, le cœur plein de fiel, jurant de se venger de son échec par tous les moyens qui seraient en son pouvoir. Mais il fallait, avant tout, trouver de quoi vivre. Il y avait un mois bientôt qu'il était sur le pavé. Ses maigres économies s'épuisaient. Il avait frappé à toutes les portes. Partout, il avait rencontré un accueil glacial et reçu la même réponse. On regrettait infiniment, mais on n'avait besoin de personne. On savait qu'il était parti brusquement de la maison Jacquemin et l'on se méfiait. Il s'était présenté chez M. Argentiole, qui était au courant de l'aventure. « Mon Dieu, non !» avait répondu le méridional. « Je ne puis vous prendre chez moi. Depuis mes désastres, j'ai réduit de moitié mon personnel, et je travaille comme quatre. Je ne souhaite qu'une chose, c'est d'avoir la force de continuer. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on est tombé à plat ventre, on se relève. Faites comme moi. » Mais Pellegrin n'avait pas, comme M. Argentiole, les moyens de se relever, puisque tout le monde le repoussait. Et lui, qui avait tant raillé les ouvriers, tourné leurs plaintes en ridicule, englobait maintenant dans sa haine tous les patrons. Un matin de juillet, par un radieux soleil qui éclaboussait le Rhône de paillettes d'or, il s'en allait, sombre, le long du quai de Retz, suivant machinalement du regard un radeau qui manœuvrait pour passer sous le pont de la Guillotière. Tout à coup, un homme d'une trentaine d'années, la barbe et les cheveux noirs, en costume demi-ouvrier, demi-bourgeois, s'arrêta devant lui, les bras croisés, lui barrant le passage. « Tu ne me reconnais pas ?» lui dit l'inconnu, le fixant les yeux dans les yeux. « Non, » dit sèchement Pellegrin. « Regarde mieux. C'est ma barbe qui t'empêche de me reconnaître. Rase-moi en imagination. » « Ah, tu n'as pas la bosse des figures, Pellegrin. Tu vois que je sais ton nom. Te souvient-il du temps où nous portions la petite blouse bleue et le béret rouge des élèves des frères ?»« D'Espinasse !» s'écria Pellegrin. Il lui serra les mains avec effusion. Ils avaient été bons camarades dans leur enfance, alors que le père d'Espinasse était serrurier rue Vieille Monnaie.
« Tu y as mis du temps !»
répondit gaiement l'ouvrier. « Ah ça ! Mais tu as la mine bien lugubre pour être habillé comme un marquis. Qu'es-tu devenu depuis tantôt 15 ans ? Est-ce à un bourgeois ou à un prolétaire que je parle ?»« À un garçon, reprit Pellegrin, qui donnerait sa peau pour pas cher. » Prenant sous le bras son ancien camarade, il l'entraîna sous les tilleuls et, en cheminant le long de la berge, au clapotement de l'eau sur les galets, il dit tout à d'Espinasse, ses travaux, ses espérances, ses aspirations, puis son immense déception et sa haine violente. Il s'animait en parlant, ses yeux brillaient d'une flamme mauvaise, il éprouvait une âpre satisfaction à énumérer ses griefs, à étaler la plaie de son orgueil déçu. D'Espinasse l'écoutait en silence, avec une expression de joie, quand Pellegrin s'emportait. À la fin du récit, il l'arrêta. « Veux-tu, dit-il, que je te procure ta vengeance ?»« Ah ! Si tu le pouvais, s'écria Pellegrin, je n'hésiterai pas. À l'heure qu'il est, je ferai tout. Tout, entends-tu, d'Espinasse ?»« Diantre, tu n'es pas un agneau !» reprit l'ouvrier. « Eh bien, écoute-moi. Depuis tantôt 15 ans que tu ne m'as vu, j'ai habité Paris, vivant du métier que m'avait appris mon père. Mais j'ai travaillé en homme libre, j'ai pensé, j'ai marché dans la vie en cherchant un but, l'égalité des hommes.
J'ai été d'abord disciple de Talabo et du père Enfantin. Je me suis fait Saint-Simonien. Mais j'ai bientôt reconnu l'utopie de ces doctrines trop vagues, et, fatigué de ne pouvoir mettre mon gilet sans l'assistance d'un de mes frères, je me suis jeté résolument dans le parti de la révolution.
Ah, voilà du nouveau.
Et j'ai fait mes preuves, reprit Despinasse. Je me suis battu au cloître Saint-Merry. Je suis l'un de ceux que le parti envoie à Lyon pour organiser la résistance. Car c'est par la force seule, entends-moi bien, que le peuple parviendra à conquérir ses droits. Je ne suis qu'un ouvrier. Je gagne péniblement ma vie. Mais je fais de la propagande, je travaille pour la liberté et je prends patience. Bientôt, la République me récompensera. Lagrange est à notre tête. Il est l'âme de la conspiration. Et avec cet homme-là, nous arriverons à nous rendre maîtres de la ville. Quand le jour de la lutte se lèvera, nous serons prêts. Ils approchaient du pont Lafayette. Des crieurs à tue-tête annonçaient leurs journaux. Le précurseur, l'écho de la fabrique, la glaneuse. « Tu entends ?» dit Despinasse. « Ces journaux qu'on distribue dans la foule, c'est le levain qui soulèvera le peuple et le jettera sur ses oppresseurs. Vois-tu, pèlerin, il faut que tu sois des nôtres si tu veux te venger des bourgeois. Mais d'abord, tu devras renoncer à tout sentiment d'amour-propre et de faux orgueil. Tu es sorti du peuple, il faut y rentrer. Tu as fait ton apprentissage de tisseur. Tu sais donc travailler. Quitte ces vêtements qui t'empêchent de t'affranchir. Reprends la casquette et la blouse du compagnon et cherche du travail. Ce sera dur, peut-être humiliant, si tu as encore des préjugés. Mais il le faut pour te mêler plus facilement au peuple. » Pèlerin l'avait écouté, la tête basse. Un violent combat se livrait en lui. « Il m'en coûte beaucoup, » dit-il en relevant la tête. « Cependant, je suivrai ton conseil. Je chercherai de l'ouvrage dans un atelier. »«
Bravo, tu es un homme.
Quand tu seras affilié au Ferrandinier, viens me trouver. Je demeure chez Blétry, logeur, 12 grandes rues de la Guillotière. Tu demanderas Despinasse, compagnon serrurier. Je te ferai recevoir des droits de l'homme. Le comité invisible te chargera de faire de la propagande. Si tu te dévoues à la cause, tu n'auras pas lieu de t'en repentir, je t'en réponds. Adieu, citoyen. » Despinasse serra gaiement la main de son ancien camarade et s'éloigna rapidement vers le pont de la Guillotière. Pèlerin avait pris une grande résolution. Il rentra chez lui, rue Désirée. Ayant fait un paquet de ses hardes, héroïquement, il alla les vendre à un fripier, ne se réservant qu'un peu de linge, et acheta un costume d'ouvrier. Le soir même, il donnait congé à son propriétaire et allait louer un garni, rue des Tables Claudiennes, en plein quartier de tisseurs. Despinasse lui avait ouvert les yeux et montré la voie à suivre. Maintenant, la politique lui semblait le champ le plus favorable à la satisfaction de sa haine et de son ambition. Mais d'abord, il fallait être un ouvrier comme les autres et gagner sa vie au jour le jour. Le lendemain, de bonne heure, il se mit en campagne pour chercher du travail. Les cheveux coupés ras, une casquette de velours et une blouse, ce fut avec un sentiment de honte, presque en se cachant, qu'il se mit à battre les boutiques des boulangers et des marchands d'ustensiles pour la fabrique, à la recherche d'un écriteau. Il avait parcouru déjà plusieurs rues, sans succès. Quant à la devanture d'un boulanger de la Grand-Côte, cet avis attira ses regards. « On demande un compagnon pour un métier d'armure. » S'adresser rue Néré, 27, au 3e, porte à droite. C'était bien son affaire. Il se rendit à cette adresse. Mais, arrivé à l'étage indiqué, à peine eut-il lu sur la porte le nom de Jacquemin qu'il redescendit l'escalier 4 à 4. On l'aurait bien reçu, ma foi. C'était là. Comment ne s'en était-il pas souvenu que demeurait le frère de son ancien patron, ce vieux canu qu'il avait fait renvoyer du magasin. Il recommença ses recherches. Un marchand de remise finit par l'adresser rue de Flessel, 5, au 2e, chez le père Besacier. C'était pour un velours façonné. Pellegrin connaissait l'article. Il se présenta sur le champ. L'atelier, vaste et bien éclairé, était occupé par 4 métiers de façonné et 2 d'armure. 2 rouées à canette complétaient le matériel. Besacier mit aussitôt le nouveau compagnon à l'essai. En ouvrier entendu, Pellegrin visita une à une les bobines de la cantre, réglant les poids et rhabillant les fils cassés. Puis il monta sur le métier. Les fers placés sur la fassure, il prit le rabot de la main droite et, posant les 2 pieds sur les marches, il commença. Besacier fut satisfait. Le morceau tissé était très bon, sans entrebas. La coupe fraîche, sans duvet. Le vieux canu ne songea même pas à s'informer des ateliers où Pellegrin avait travaillé. Puisque cet ouvrier connaissait bien son métier, il ferait de bon ouvrage. Besacier n'en demandait pas davantage. Il l'embaucha sur le champ. Cet article n'allait pas vite, mais il était bien payé. Et sans trop de peine, Pellegrin pourrait en tirer, pour sa part, 3,50 francs ou 4 francs par jour. Il était donc à l'abri de la misère. Le premier pas, le plus dur, était fait. Courageusement, il se mit au travail.